Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
Les aiguilles bougent un petit peu dans les sondages. On en a un nouveau, donc, à se mettre sous la dent, mené en fin de semaine. Un sondage léger qui a sondé notamment les intentions de vote. C'est un peu l'apéritif qu'on vous sert ce soir. Notre jour des analystes, nos analystes qui sont en feu. On le voit tout de suite.
Allez, Sophie.
Allons-y avec les faits saillants. La CAQ qui remonte un peu là, de 2 points. Québec solidaire qui en perd 4. Beaucoup de jeunes là, qui regardent d'ailleurs. Quelle est votre fine analyse sur ces mouvements, messieurs, dames?
Emmanuel, vas-y.
Oh mon Dieu! Moi, ce que je retiens avant tout, c'est premièrement que Paul Saint-Pierre Plamondon a atteint son plafond pour l'instant. Les gens vont dire, parce qu'il a causé la controverse la semaine dernière, il n'a pas monté. Mm. On pourrait dire aussi parce qu'il a causé la controverse avec ses propos sur la violence, l'asservissement du fédéral, il n'a pas baissé non plus. Donc, il a une zone de confort, il a fait le plein, mais... Tout le défi est devant lui, là. Et ça, c'est important. Puis moi, je vois une très grande fragilisation de Québec solidaire.
Ouais,
parce que oui, le vote des jeunes est plus fragile. On le voit parce qu'on en perd au détriment du Parti québécois.
Du PQ, c'est ça.
Mais aussi parce qu'il y a des votes fédéralistes qui sont stationnés chez Québec solidaire. Puis est-ce que cet appui-là est vraiment solide ou est-ce qu'il va retourner au Parti libéral? Ouais. On sent clairement là, que QS a de la misère à s'imposer dans le débat.
Mais pour la CAQ, bien sûr, un sondage où une hirondelle ne fait pas le printemps, mais pour la première fois depuis à peu près 6 mois, donc il y a une légère remontée. Donc la CAQ, qui a tout le moins dans ce sondage-là, cessé de descendre, reprend un peu de poids de la bête. Je vous dirais, le patient est toujours malade, mais son état semble stabilisé, ce qui est le premier pas vers... éventuellement une remise en forme. Mais effectivement, pour le Parti québécois, et là, j'y fais un peu d'opinion avec Emmanuel sur le Parti québécois, c'est que je regarde un peu dans tous les groupes d'âge maintenant, le PQ mène ou et talonne celui qui est devant le parti qui est devant le PQ, dans l'occurrence les plus jeunes, 18-34 ans. Il y a plus de 3 points d'écart là, entre Solidaire et le Parti québécois. Et il y a une montée et il y a encore potentiellement un potentiel là, pour le Parti québécois d'aller chercher des électeurs de ce côté-là, à mon avis.
Ouais, et Mario, la donnée qu'on regarde aussi toujours beaucoup, qui est bien importante, c'est les francophones. Les 42% des francophones sont toujours stationnés au PQ.
Oui, non, le PQ, c'est un bon sondage pour le Parti québécois, le fait de rester là, à ce niveau-là. En même temps, c'est sûr que moi, je le disais là, depuis quelques jours, on sent que ça plafonne, puis tu sais, la souveraineté n'a pas bougé non plus. Là. Malgré tout le discours très indépendantiste fort, on pensait brasser la cage et rester à 36%. Avec le PQ à 34, la souveraineté à 36, c'est comme si c'est ce sentiment que tu as fait le plein. Puis que là, t'as de la misère à trouver la prochaine marche de l'escalier pour le PQ. Parce que là, la prochaine marche de l'escalier, il faudrait que tu puisses faire monter à la fois la souveraineté et le Parti québécois. Et à mon avis, ça va prendre plus. Peut-être des recrutements de nouveaux personnages forts, recrutements dans l'équipe, peut-être des éléments comme ça qui vont faire bouger les choses. Mmh.
Bon, au fédéral, les conservateurs gagnent un point. Ce qui est frappant, Emmanuel, c'est le bloc là, qui a le vent dans les voiles. C'est vraiment les formations souverainistes là, des deux côtés de la frontière ont la cote.
Oui, mais je pense qu'à partir du moment où le Parti québécois a réussi à relégitimer le discours souverainiste, parce que je pense qu'il a réussi à le faire ça, mais c'est sûr que ça aide aussi à camper la crédibilité. Si tu retournes au PQ, tu vas dire « Ah ben je vais rester au Bloc ». Il y a des vases communicants là-dedans et je pense objectivement que le Bloc a énormément bénéficié du débat des dernières semaines sur les empiétements du gouvernement fédéral du côté des compétences du Québec. Puis dans la mesure où c'est un parti qui se présente comme le seul défenseur des intérêts, des pouvoirs du Québec, etc. Mais lui qui, des fois, dans certains débats, a de la misère à définir sa légitimité ou sa crédibilité, bien là, c'est un débat qui était fait pour le Bloc québécois.
Ouais,
là.
Ouais. Bon, alors, on ne manque pas demain les résultats complets dans le Journal de Montréal et de Québec. Ça va nous donner
volets,
de l'essence.
Il y a d'autres volets.
Oui, oui, vraiment fascinant. Oui. Retiens-toi, Paul. On sait que tu meurs d'envie d'en parler. À demain. On parle maintenant du double chapeau du député provincial, maintenant indépendant, candidat conservateur au fédéral, Éric Lefebvre. Il s'est expliqué à la presse parlementaire. Aujourd'hui, il peut faire le grand écart. Hein? Il persiste et signe, Paul.
Ouais, il n'est pas le premier à le faire du côté de Québec. C'est pas une position facile. Il plaide, il a raison sur un point, l'intégrité, l'honnêteté qu'il a eu de le déclarer. Mm-hmm. Il aurait pu très bien ne pas le dire et attendre encore plusieurs mois, puis comme si rien n'était. Il l'a fait, il siège comme indépendant. C'est pas une position confortable. Certains mettent en doute où sera sa loi, pose la question, où sera sa loyauté. Le vrai test pour lui, ce sera son assiduité, autant à l'Assemblée nationale que dans son comté comme député québécois. Il est payé par des contribuables pour être député à l'Assemblée nationale. Faire campagne, il n'y aura pas d'élection demain matin à Ottawa, mais M. Lefebvre devra être très, très, très prudent dans...
Ouais. Plusieurs, Paul, ramènent le cas Martine Ouellet. Là, ouais. Et on se rappelle la conclusion de la commission d'éthique à l'époque là, qui disait, bon, c'est pas compatible, mais c'est à surveiller.
Mais là, c'était très différent.
Elle était chef à Ottawa.
C'était très différent,
chef,
c'est ça. Ouais. C'est que Martine Ouellet jouait un rôle. Elle devait se rendre à Ottawa, jouer un rôle de chef de parti, des conférences de presse. Éric Lefebvre à Ottawa, il n'est rien. Il n'a pas de titre, il n'y a pas de double fonction. À Ottawa, il est quelqu'un qui veut être candidat conservateur, qui dit « je serai ». Mais tu sais, aujourd'hui, là, quelqu'un pourrait être boulanger puis dire « moi, je veux être candidat pour un parti de l'élection fédérale », mais ce n'est pas un titre, c'est que tu continues à faire ton travail en attendant. Donc, la grande question, Paul l'a soulevé, c'est « va-t-il continuer à faire son travail ?»
Oui, Emmanuel.
Quand c'était Catherine Fournier qui est restée députée indépendante à l'Assemblée nationale durant de très longs mois parce qu'elle sollicitait la mairie de Longueuil, il n'y a personne qui a remis en question son intégrité, son allégeance, le fait qu'elle était payée par les fonds publics pour se faire élire ailleurs. Mais non, Catherine Fournier était jeune, était mimi, tout le monde l'aimait, donc personne n'a rien dit. Là, on a un député du parti au pouvoir qui en plus veut se présenter pour les gros méchants conservateurs. Et ça, je pense que dans la logique de la dynamique partisane à Québec, ça contribue hautement à la façon dont on traite ce dossier. Si on veut que les gens arrêtent de se balloter d'une place à l'autre, bien qu'on fasse une règle universelle. Ça s'applique aux députés comme M. Lefebvre, mais ça s'appliquera aussi aux conseillers municipaux qui restent confortablement assis dans leur job avant de se faire élire au provincial.
Ouais. En tout cas, M. Legault ne s'est pas exprimé là-dessus. Et ça va être intéressant aussi d'entendre les électeurs. Après la pause, on revient sur la décision de Honda qui a choisi de s'établir chez nos voisins en Ontario plutôt qu'au Québec. Le ministre Fitzgibbon qui a livré ses états d'âme. Restez là.